chaud.
Séduire la Parisienne, c'est pas de tout repos. Je vais vous montrer un spot d'observation. Et là, on verra les plus belles femmes du monde.
Je me souviens d'un homme, c'est juste regarder. Et après, quand ça s'est passé, ça a été fulgurant. J'adore.
Le doc, les Parisiennes sont les plus belles femmes du monde. C'est demain à 22h45 sur France 4.
France Inter. La différence.
Il est 15h04, très précisément, l'heure de là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Putain de bordel de merde que ça fait chier. Hier soir, 23h, France Info, j'écoute que d'un œil les infos, et d'un seul coup j'entends Cinebdo, l'hebdomadaire, cessera de paraître fin avril 2010. Putain de bordel de merde que ça fait chier, mais que ça fait chier, putain de bordel de merde.
Bonjour Daniel, je suis un pigeon de Natixis. Je suis vigneronne dans le sud de la France et alors que je devais faire face à de gros problèmes de trésorerie, mon conseiller financier de la Banque Populaire m'a appelé pour prendre rendez-vous avec moi à mon domicile. Je n'emmenais pas large étant donné l'état de mes finances, mais il est arrivé tout miel et m'a proposé d'acheter des actions Natixis. Je suis un peu tombée des nues. Je lui ai rappelé sans trop insister que ma situation était difficile. Il m'a répondu que ce serait au contraire une bonne solution pour pallier les retards de paiement de mes clients. Il m'a flatté en me disant que s'il me faisait une telle proposition, c'était parce que j'étais une cliente privilégiée de la Banque Populaire. Soulagée et presque confiante, je sais que les banques ne sont pas des philanthropes, j'ai accepté pour 1000 euros d'actions qui sont venues tout naturellement alourdir mes découverts et qui, non content de me coûter en agio, ne m'ont bien entendu rien rapporté. Là encore, c'est le principe de la double peine. Catherine, dans les Corbières. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Oui, je réagis par rapport à Natixis, l'année où il y a eu des actions. On m'a proposé de m'offrir un découvert supplémentaire pour acheter des actions Natixis. Donc c'était une caisse d'épargne en Auvergne. Et on me proposait donc de passer de 2000 à 4000 euros de découvert, parce que j'étais dans une situation financière assez difficile. Et soi-disant que ça allait me rapporter 3 fois ou 4 fois plus en quelques mois. Donc j'étais un peu alléché au moment même, j'ai réfléchi. Et grâce à Dieu, je n'ai pas plongé dans leur système. Sinon, j'aurais été dans une situation financière catastrophique, quoi. Voilà, je tenais à, suite à votre émission, vous remercier de mettre tout ça au grand jour, parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont fait spolier, des pauvres petites personnes qui ont mis toutes leurs économies. Voilà, merci.
Oui, salut Daniel, je viens d'écouter ton émission sur les petits épargnants lésés de Natixis. Ben écoute, je suis étonné que tu te portes un petit peu pour victime ces gens-là qui sont rien d'autre que des actionnaires, petits ou gros actionnaires. Les actionnaires sont les mêmes, c'est ceux qui sont la cause aujourd'hui de l'effondrement de l'économie de notre pays, qui sont la cause de la montée du chômage, qui sont la cause des usines qui partent à l'étranger pour travailler avec une manœuvre beaucoup moins chère. Voilà, alors pour moi aujourd'hui, les actionnaires de Natixis, petits ou grands, sont les mêmes. C'est des gens qui épuisent l'économie de notre pays. Pascal, Saint-Pierre-Chartreuse.
J'ai été, entre guillemets, escroqué de 500 actions pour moi-même et plus de 300 actions par rapport à mon épouse au niveau de Natixis. Le problème, c'est que l'argent que je disposais, c'était un capital que j'avais d'une somme que j'avais eue, étant donné que je suis handicapé. Et ben, j'ai tout perdu, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Voilà, c'était mon témoignage. Au revoir.
Oui, bonjour, je fais partie des fameux 2 800 000 personnes qui ont été marrons, quoi, par la banque. Là, au bout de quelques années, je décide de la quitter, et c'est excessivement difficile, parce qu'à l'époque, j'avais des rendez-vous pour pouvoir acheter des actions, on m'écrivait, on me téléphonait sans arrêt. Et j'avais les rendez-vous tout de suite là pour, ne serait-ce que pour me séparer de la banque, de la carte premier. Ça dure un mois, on me fait attendre, et puis voilà. J'arrive plus à quitter une banque qui, jusqu'à maintenant, m'a posé que des problèmes. Voilà.
Oui, salut, c'est Jean, j'appelle pour Natixis.
Quel bobard extraordinaire de nous dire qu'on ne savait pas. Mais franchement, on peut reprocher plein de choses aux économistes, mais pas d'être des crétins. On savait tous que quand on arrive en haut d'un cycle, le cycle va se retourner. Je l'enseignais à mes élèves de première depuis des années. C'était écrit dans le mensuel Les Échos de novembre 2005 que j'ai sous les yeux, qui titrait sur le crack à venir. On savait tous que le crack allait arriver et on savait tous qu'on n'entre pas dans un marché quand on est en haut du cycle. Donc forcément, les dirigeants de Natixis le savaient. Forcément, Nicolas Sarkozy promettant à tout le monde de s'enrichir, alors que c'était plus le moment de s'enrichir, que la fête allait être bientôt finie, et qu'il le savait. Mais tout le monde voulait grappiller les dernières petites miettes de ce formidable cycle qui s'est joliment retourné et qui nous en a bien mis tous dans la figure. Voilà, c'est un prof d'éco énervé qui en a marre de dire qu'on ne savait pas. Les économistes savaient, nous savions ce qu'ils ne voulaient pas savoir. C'est soit les pauvres qui ne savaient pas du tout, effectivement, parce qu'ils ne sont pas informés, qu'ils n'ont pas eu la chance de suivre une formation en économie, soit alors... Sinon, les autres savaient très bien et ils ne voulaient pas faire savoir qu'ils savaient. Voilà, parce qu'il y avait de l'argent à se faire. Allez, à bientôt et bravo pour votre émission.
Il y a 8 ans, mon mari, cadre chez Peugeot, a été licencié. Nous avons placé cet argent sur un livret A. Et puis, mon directeur d'agence, caisse d'épargne, me convoque pour prendre des actions à la carte chez Natixis. J'avais des relations de confiance. Son fils et ma fille avaient sympathisé à la fac et étaient dans le même cursus, dont nous ne faisions pas que parler argent. Mes beaux-parents, résidant en Espagne, nous donnaient des nouvelles économiques catastrophiques de ce pays. Nous avons parlé, je lui ai dit que ces propositions, je n'en voulais pas. J'ai revu dernièrement ce directeur d'agence. Je m'étais promis, après l'effondrement des actions, de lui signifier ma colère des risques qu'il avait failli me faire prendre. Je lui ai dit, j'espère que vous avez écouté mes conseils et que vous avez vendu vos actions. Il m'a répondu, mais madame, ne vous inquiétez pas, cela remontera. Je lui ai répondu, oui, bien sûr, suffira de ne pas être mort avant. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais à nouveau un courrier pour placer cet argent en action. Risque d'y avoir moins de pigeons cette année. Allez, je vous remercie pour vos émissions, bon vent et à plus tard.
Oui, bonjour, je suis commercial dans une caisse d'épargne, donc bravo pour votre émission. Première chose, donc il y a eu beaucoup de disparités d'une caisse régionale à l'autre, à la fois Banque Pop et caisse d'épargne. Récompense à ce jour, 93 actions à 3 euros et des brouettes, donc pas grand-chose et pas d'autres primes. Plusieurs fois par jour, lors de la commercialisation, il y avait des relances de la hiérarchie, parfois avec des menaces de la part du management. Donc une commercialisation par la terreur qui a été faite pour Natixis, ce qui est toujours vrai à ce jour pour d'autres supports actions à risque. Amendement Fourgousse, directement lié au marché actions, ce député qui a permis l'évolution de la réglementation de l'assurance vie a été scandalisé par le scandale des subprimes au marché des actions, alors que lui-même a envoyé des petits porteurs sur le marché des actions. Il y a eu des licenciements dans une caisse régionale en Ardèche pour refus de vente d'actions à des clients non appétants. Il n'y a jamais eu de file d'attente de clients pour acheter Natixis, ça c'est une légende. Il faut être cohérent jusqu'au bout, le syndicaliste CGT qui a mis 40 000 euros sur Natixis devrait rendre sa carte en tant qu'odieux spéculateur qui veut mutualiser les pertes et privatiser les profits. Il faut également ne jamais perdre de vue que la complaisance, la complicité des politiques qui ont rendu possible par leur vote droite et gauche la remise en cause du statut mutualiste des réseaux CE et Banque Pop. Une presse péripatéticienne qui a trouvé en son temps 1000 qualités à Charles Millot, gros annonceur oblige, qui a touché 150 000 euros de surcroît de travail pour l'opération Natixis. J'espère avoir été compréhensible. Merci.
Oh que oui, vous avez été compréhensible, tout comme les messages précédents. Tantôt on s'indigne, tantôt on dit quelle bande de pigeons idiots, et puis il y a aussi ceux qui se sont fait gruger, qui ont perdu toutes leurs économies, ceux qui se sont fait manipuler. Bref, vous avez compris, nous allons passer à nouveau aujourd'hui 7h avec les 2 800 000 pigeons de Natixis, tous ceux qui se sont fait rouler entre 2006 et 2008 et qui aujourd'hui pour la plupart n'ont plus que leurs deux yeux pour pleurer. Un auditeur m'a fait remarquer que la valeur aujourd'hui de Natixis n'est pas de 1, 1 euro, comme je l'ai dit hier, mais de 4 euros, ça remonte effectivement, c'est remonté un petit peu ces derniers temps, mais enfin, rien à voir avec les 19,50 euros de la valeur du titre au départ, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on continue et on s'aperçoit qu'il y a un langage très riche pour dire pigeon. Nous, on dit pigeon comme ça, mais il y a aussi floué, berné, grugé, spolié, trompé, dupé, dépouillé. C'est à tout cela que cette heure est dédiée. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous. Je viens d'écouter l'émission sur Natixis qui est assez croustillante. Et une chose qui est quand même tout à fait étonnante, c'est la réaction des gens qui se sont fait avoir comme des pigeons et qui continuent, et qui se sont fait avoir en fait parce qu'ils avaient fait confiance à leur banquier. Et ça me rappelle finalement l'émission qu'on avait eue sur la soumission à l'autorité. Je trouve que ça se rapproche drôlement tout ça. Voilà, c'est juste une petite réflexion en passant. Au revoir.
Bonjour à tous les MG, bonjour à toute cette équipe formidable qui t'accompagne Daniel. Bon, c'était pour vous dire que le prochain repère de Cahors se tiendra le mardi 30 mars à 20h30 au Barouf, chez Véro et Rémi, les super patrons. C'est un peu notre couple de Thénardier, mais version révolutionnaire. Eh, les élections sont finies maintenant, mais il nous reste tout à faire. Alors bougez-vous un petit peu, les cadurciens, et venez tous, donc, je répète, mardi 30 mars 20h30 au Barouf. Bise à tout le monde, c'était Loulou de Cahors.
Bonjour Daniel, merci pour tes émissions. Je t'appelle à propos de l'histoire de Natixis, juste pour dire que les méthodes commerciales de la Caisse d'Épargne n'ont absolument pas changé, puisque maintenant ils envoient des courriers, j'en ai reçu un, disant que selon de nouvelles règles européennes, nous sommes obligés de leur envoyer une photocopie de la déclaration d'impôt. Alors ça n'est pas du tout justifié, ils veulent simplement utiliser cette déclaration pour connaître les revenus des gens et pouvoir leur proposer des placements adaptés. Je pense que beaucoup de gens ont dû recevoir ce genre de courrier. Et je voulais juste les prévenir qu'ils n'ont absolument pas l'obligation de faire cela et que les règles européennes, c'est une vaste foutaise. Voilà, c'était Arnaud de L'Aille-les-Roses.
Dans le cas présent, j'ai été trompé. Et c'est un terme que je mets bien au-dessus que volé.
On vous a fait fermer votre livret.
C'est ça.
Pour Natixis, oui. C'est bien ça, hein. Ça, c'est ce qui s'appelle faire des affaires, oui.
Je vais donner des conseils financiers. C'est du conseil financier négatif, parce que le conseil positif, je suis incapable d'en donner, mais... Mon conseil financier négatif, ce serait n'achetez pas des actions. N'achetez pas des actions.
Moi, j'avais délégué mon pouvoir de surveillance au responsable de la caisse d'épargne.
Il fallait que chacun de nos clients... ressortent avec des actions Natixis.
N'achetez pas des actions. N'achetez pas des actions.
35 à 40 000 euros, à peu près.
Par rapport à votre épargne, ça représentait...
C'était tout, 100%. J'ai fait un prêt revolving pour acheter.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie, j'y suis avec Charlotte Perry, 2 800 000 pigeons.
Flight number 2, arriving from New York.
Il fallait tout faire pour que ce soit en fait une demande du client, mais non pas une démarche commerciale de la part de la Caisse d'Épargne.
Thierry, conseiller financier à la Caisse d'Épargne.
Donc il fallait inciter le client, il fallait que le client nous dise c'est moi qui vous demande des actions plutôt que c'est le conseiller qui vous les conseille.
Ça se passait comme ça ?
Ça se passait comme ça. Bah, c'est facile aujourd'hui, avec tout ce que l'on a, je dirais, sous la main, de faire en sorte que ce soit le client qui soit demandeur. Hein, puisqu'on a des multiples feuilles à remplir, avec donc des cases à cocher. Et en fait, vous mettez soit que c'est le client qui fait la demande, soit que c'est le conseiller qui lui soumet. Donc vous cochez la case qui vous intéresse. Le client relit rarement ce qu'il signe, donc c'est pas très dur. À l'origine, la création de formulaires par l'autorité des marchés financiers a un but de protéger, je dirais, le client. Le problème aujourd'hui, c'est que dans ces formulaires, il y a différentes cases, hein, et en fait, c'est le conseiller qui les coche. Comme ça, il protège la banque. Mais comme le client signe, il a une preuve. Après, le conseiller a une preuve, donc on est difficilement attaquable. Si on laissait vraiment le client remplir, je pense que ce ne serait pas la même chose.
Les conseillers sont honnêtes, mais ils ont des objectifs.
Toutes et tous. Au vu des résultats, je tiens à vous adresser toutes mes félicitations et mes sincères remerciements pour cette production exceptionnelle. Derrière ce grand projet, chacun des collaborateurs a démontré sans relâche sa ténacité et sa volonté de réussir cette opération. C'est donc aujourd'hui ou jamais qu'il va falloir donner le maximum de vous-même pour atteindre l'objectif final 100%. Je sais que ce matin, toutes les équipes sont présentes et gonflées à bloc. Alors, explosez-moi les compteurs! Éclatez-vous! Et excellente journée! Voilà un des messages qu'ont reçu les conseillers financiers de Natixis au cours de cette période où on a convaincu les clients de la Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne de placer leurs noisettes dans Natixis. Il faut crier plusieurs fois victoire chaque jour quand on a réussi à faire plus avec un client qui ne venait pas de lui-même, mais que l'on est allé chercher. Je n'entends pas assez de cris de victoire, des cris primitifs. Ça, c'est un autre dirigeant qui s'adresse à ces mêmes conseiller financier, on n'est pas très loin de l'entraînement des Marines, avouez, non? Et encore un petit document. Fierté collective, c'est un éditorial. Fierté collective. Bravo! Tous ensemble, vous avez su vous mobiliser pour réussir l'opération de marché de Natixis. Plus d'un million de nos clients et sociétaires ont choisi de devenir actionnaires de notre filiale commune avec les banques populaires. Un résultat qui peut susciter une légitime fierté chez chacun de vous. Cette performance est à la hauteur des ambitions que nous plaçons dans Natixis. Outil de collecte populaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les caisses d'épargne ont acquis en quelques années une dimension pleine et entière d'établissements bancaires et d'acteurs reconnus sur le marché européen. Quelle trajectoire ! Vous avez démontré votre capacité à vous surpasser dans les grands moments, comme des sportifs de haut niveau. Vous avez donné un nouvel élan au groupe Caisse d'Épargne qui, jour après jour, s'adapte et se transforme. Dès aujourd'hui, d'autres défis nous attendent. Ensemble, il nous appartient de les relever. Bonne année 2007 à vous et à vos proches. Et c'est signé Charles Millot, président du directoire de la CNCE. Voilà l'ambiance de ce genre d'opération, de ce genre d'établissement et de l'époque que nous vivons, parce qu'évidemment, ce qui s'est passé, ce scandale Natixis, qui n'a pas fait plus de vagues que ça, n'est pas quelque chose d'isolé. D'abord, il y en a eu d'autres, Eurotunnel, EADS, Vivendi, etc. Et puis, cette histoire relate bien l'esprit de l'époque. Et ces courriers adressés, ces notes, ces mails adressés aux collaborateurs de ces banques, de ces établissements, disent long sur notre temps, sur notre époque, sur nous-mêmes et pas seulement sur les pigeons avec qui nous sommes jusqu'à 16 heures. Dans la basse, j'y suis 2 800 000 pigeons.
Un pigeon vient de quitter l'école. petit pigeon gonflé à bloc se prend pour le roi du pétrole. Sans dû n'y mettre, prend son envol. Ce monde est à moi, je le croque. Oui, mais voilà, manque de bol. 300 becs pour un banc public. Du pain sec, des fils électriques. On m'avait pas dit ça à l'école. Colle, colle. Si les puissants nous font la nique, si les filles préfèrent les mastocs, tout ça c'est faute à l'Amérique, disait notre oiseau famélique. I am shocking par cette époque. En bon pigeon, je me syndique. Et je vous roucoule qu'on vous escroque. Que les poules sont pas faites pour les coqs. Ça, c'est des idées politiques. Tic, 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 tic. Car quoi que l'on fasse dans ce cloaque, quoi que le temps passe, toujours des couacs. De petits couacs qui nous concassent. Des têtes à couacs qui croissent. Paires de claques et tour de passe-passe. Nous trouve la face et la carcasse. Et la carcasse.
Alors, en ce qui me concerne, je suis obligé de revenir un petit peu sur la période qui précédait le rendez-vous à la banque.
Didier, actionnaire de Natixis.
En fait, ma mère est décédée. Et à la suite du décès de ma mère, j'ai donc reçu en héritage un certain nombre de biens dont j'ai pas pu payer les frais de succession, hein, les frais notariaux, enfin les impôts, etc., etc. Et donc, j'étais contraint de vendre le pavillon familial dans lequel vivait ma mère, là où je suis né, etc. Et donc, je me suis retrouvé avec un chèque relativement conséquent que j'ai déposé sur mon compte. Et donc, j'ai déposé l'argent. Visiblement, à la banque, ils ont dû s'apercevoir que mon compte était particulièrement créditeur, que je m'en occupais pas. Et un jour, ils m'ont téléphoné, ils m'ont proposé un rendez-vous. Et donc, je suis allé à l'agence. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait la possibilité, comme quand on entrait dans les banques populaires, d'acquérir des parts sociales. Et ensuite, je m'en suis pas inquiété. Pas du tout même, jusqu'au moment où, parce que j'en ai parlé à un membre de ma famille qui connaît un petit peu la situation, il m'a dit qu'il fallait que je me méfie, que c'était des produits boursiers, et voilà, je me suis retrouvé avec des produits qui avaient été achetés aux alentours de 19 euros et qui se retrouvaient autour de 53.
Et du coup, enfin, vous êtes retrouvé avec combien d'actions ?
Alors, je sais pas. Alors, ce que je sais, c'est que, puisqu'il y avait des quotas qui étaient instaurés, elle m'a dit que je n'avais pu en obtenir que pour 12 000 euros. Et donc, les 12 000 euros, aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 2 300. Moi, personnellement, de par mon expérience, de par mes origines, bon, je travaille dans le secteur social, et de bonne foi, je pensais que il s'agissait, entre guillemets, d'acheter des parts sociales de la BRED, enfin des banques populaires, qui, enfin de la fusion de cette nouvelle structure, qui sont en fait des structures à l'origine mutualiste. Voilà la situation dans laquelle je me suis retrouvé, quoi. Donc, pas du tout conscience qu'il s'agit de produits boursiers. Alors, j'ai compris que c'était pas de l'assurance vie, etc., etc., mais je savais pas que c'était des produits qui étaient cotés en bourse et qui pouvaient soit grimper, soit baisser, mais surtout qui servaient à la spéculation. Voilà, j'ai jamais acheté de ma vie de produits d'action, j'ai jamais boursicoté. Au fond de moi, je suis relativement contre. Je suis assez choqué de la situation dans laquelle je me suis retrouvé.
Voilà, une histoire de pigeon. Alors, on pourrait faire toute l'année une émission quotidienne avec l'histoire des 2 800 000 Françaises et Français qui se sont fait rouler dans la farine et qui ont subi donc cette pression formidable de ces, entre guillemets, conseillers financiers dont je relatais quelques-uns de la façon dont ils eux-mêmes subissent des pressions, des messages. Et puis, évidemment, il y a des primes à la clé, des primes individuelles, des primes collectives qui poussent ces vendeurs ou conseillers financiers à mettre la pression sur des clients de la Caisse d'épargne, de la Banque Populaire, donc des gens, voilà, c'est le type banque de bons pères de famille, comme on dit, où c'est la confiance qui règne, la plupart des clients n'y connaissent absolument rien dans ces histoires de bourse, de placement, de titres, etc. Ils ne connaissent absolument rien. Et ils se sont donc fait rouler pour la plupart. Alors c'est vrai que, voilà, on peut juger que ces pigeons sont consentants, que ces pigeons sont responsables des inégalités dans lesquelles qui caractérisent aussi notre époque. Enfin, ça, c'est chacun qui peut se tirer ses conclusions. Mais c'est quand même un phénomène énorme dont finalement on a assez peu parlé. Et il faut dire aussi que les pigeons en question ont très très peu de recours, puisque nous sommes, vous le savez, dans la civilisation du risque. Enfin, c'est ce que on nous dit du côté du MEDEF. Donc voilà l'histoire, la triste histoire de Didier.
J'ai décidé donc, parce que je me suis senti floué, je me suis senti trompé. Donc j'ai décidé de demander réparation, quoi, parce que je m'estime victime. De la même façon que si je descends en bas tout à l'heure à la boulangerie et que je lui demande un pain, mais que je rentre avec une tourte pourrie, il y a de grandes chances que je redescende et que je lui dise, que je lui explique, quoi, hein, qu'il y a un problème avec le pain, quoi, et que c'est pas ça que je lui avais demandé. Bon, là j'ai pas pu avoir ça. Hein, c'est-à-dire que je suis à peu près sûr que le boulanger que je connais en bas, il me dirait oui, vous avez raison, on va vous le changer, on va vous rembourser, etc. Là, c'est pas possible. En fait, on m'a fait comprendre, mais vous aviez qu'à mieux comprendre ou mieux vous informer, ou de toute façon vous plaignez pas, parce que nous-mêmes de la banque, on s'est fait avoir. Hein, c'est comme si le boulanger me disait, mais de toute façon mon pain il est pourri, mais j'en mange aussi, donc vous plaignez pas. Et donc bon, voilà, ça me va pas. De la façon dont ça a été fait. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, par rapport à l'histoire des banques populaires, etc., je trouve ça scandaleux. Enfin, bon, en plus, la personne qui m'a reçu, elle sait que, enfin, bon, je me plains pas, hein, mais on n'a pas des salaires mirobolants. J'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique, j'ai un bac plus 3, et j'ai pas un gros salaire. Enfin, bon, c'est pas 2000 euros, on fait pas partie des gens qui ont beaucoup, etc. Et puis, bon, comme on achète cet appartement-là, et qu'on n'a pas fini de le payer après 25 ans, notre argent, il passe là-dedans. C'est comme si elle avait réussi à nous vendre quelque chose qu'on voulait pas acheter. Là où je suis remonté, c'est quand je parle d'épargne, c'est d'épargne de 3 générations et d'une vie de, enfin c'est d'une vie d'ouvrier. Sur 3 générations, on était chez Rone Poulenc à Vitry, où normalement j'aurais dû aller moi. Et j'ai évité ça, mais cette maison, c'était quand même l'épargne de 2-3 générations, de toute une vie. Et vendre cette maison, c'était vraiment douloureux. Et savoir que le produit de ce travail-là, ça part pour engraisser, alors je sais pas trop qui, vraisemblablement des produits toxiques. Oui, ça, j'ai l'impression d'avoir été doublement victime. Victime parce que on m'a pas dit les choses comme elles étaient. Et deuxièmement, parce que victime d'un système où finalement, c'est toujours les mêmes qui payent, quoi. Et c'est vrai que le produit de cette vente, j'y ai jamais touché. Et depuis 2005, j'ai pas acheté de voiture, j'ai pas acheté de téléphone, j'ai pas acheté de pantalon avec. J'ai rien acheté. L'argent, il est là, sauf l'argent de Natixis qui s'est envolé en fumée. Je veux récupérer un morceau de ma maison. Voilà. Je considère qu'on m'a volé. Donc ce que j'attends, c'est d'être que la justice fasse la part des responsabilités. Et si la justice, elle dit que effectivement, on n'a pas été trompé. Eh ben voilà, ça veut dire que on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui en toute impunité et qu'il y a des gens qui sont un peu au-dessus de tout et que nous on est au-dessus de tout.
Philippe Frémaux, directeur de la rédaction du magazine Alternatives Économiques. L'histoire de Natixis, elle correspond au fait que les banques populaires et la Caisse d'épargne, qui étaient deux banques traditionnellement qui avaient des activités de crédit limitées, qui étaient d'abord des activités de proximité. Les banques populaires, c'est des banques qui sont nées historiquement à la fin du 19e siècle, de façon à permettre aux PME d'accéder à un crédit que les grandes banques classiques leur refusaient. Un peu comme le crédit agricole pour les paysans. Bon. Les caisses d'épargne, c'est autre chose, c'est une autre histoire. C'est l'idée de créer un instrument parapublic de garantie de l'épargne populaire, et ce n'est que récemment qu'elles avaient commencé à jouer un vrai rôle de banque en développant du crédit, mais qui était plutôt du crédit aux particuliers, aussi des crédits aux collectivités locales, c'était aussi des banques du milieu associatif. Donc, vous voyez, une activité bancaire très, très proche du terrain et très proche de l'activité de transformation classique d'une banque qui reçoit les dépôts d'une population souvent assez populaire et qui en même temps se sert de cet argent pour ensuite ensuite prêter à ceux qui ont des projets parmi cette population. Et alors, c'est vrai que avec l'évolution de la finance au cours des dernières décennies, l'idée est venue à ces banques qui se développaient de jouer un rôle qui était plus proche de celle des grandes banques qui avaient à la fois cette activité de banque de crédit, mais de jouer aussi un rôle de banque de financement et d'investissement, de monter des projets plus complexes.
Donc Natixis, ça a été créé quand en fait ?
Natixis a vu le jour fin 2006, dans le cadre d'un rapprochement entre la banque Ixis qui appartenait aux caisses d'épargne et Natixis qui appartenait aux banques populaires. Et ils ont demandé en fait aux sociétaires des deux groupes d'acheter des actions, ce qui a permis effectivement de capitaliser à un niveau plus élevé cette société. Alors, ce qu'il y a, c'est que on a découvert ensuite tardivement que Natixis était extrêmement exposé à la crise des subprimes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Natixis était propriétaire d'une entreprise qui s'appelle CIFG, qui était sa filiale américaine d'assurance crédit, et c'était une filiale qui avait assuré massivement des crédits subprimes. Donc, quand il y a eu un effondrement de la valeur de ces titres, cette compagnie d'assurance s'est trouvée amenée à devoir rembourser des sommes colossales à tous ceux qui s'étaient assurés auprès d'elle pour souscrire des prêts à risque. Et du coup, Natixis a cherché à se débarrasser de cette filiale en négociant des compromis. Donc ça a coûté très cher à Natixis et les engagements étaient tels que effectivement la banque était au bord de la faillite. Et de fait, l'État a prêté des sommes considérables à Natixis, à peu près 5 milliards d'argent public, qui ont été en partie remboursés jusqu'à présent seulement. Et qui le seront, mais qui le seront à quel prix ? C'est-à-dire que de fait, les erreurs qui ont été commises vont être payées par l'ensemble, d'une part, on peut dire les actionnaires qui ont prêté, mais d'un certain point de vue, eux ont pris des risques. En revanche, les sociétaires de ces banques, tous ceux qui ont fait confiance au réseau, de fait, une partie des profits qui sont réalisés dans les banques du réseau, que ce soit la BRED, la Banque Populaire de telle ou telle région, le Crédit Coopératif, les caisses d'épargne des différentes régions, sont en train de faire remonter leurs profits à la structure du groupe BPCE, Banque Populaire et caisses d'épargne, le nouveau groupe BPCE, pour rembourser effectivement les dettes de Natixis, alors qu'à l'origine, c'est Natixis qui devait gagner plein d'argent et ensuite redistribuer de l'argent vers les filiales. Charles Millot et Philippe Dupont. Charles Millot était effectivement le président des caisses d'épargne et Philippe Dupont était le président du groupe Banque Populaire et également le dirigeant de la filiale Natixis. Donc l'essentiel, c'est qu'ils ont voulu jouer dans la cour des grands. Leurs revenus ont cru, parce qu'ils sont payés aussi de généreuses stock-options qu'ils ne pouvaient pas avoir dans le cadre des activités de dirigeants de banque mutualiste, mais qu'ils pouvaient avoir une fois dirigeants de sociétés cotées. Donc à la fois, c'est cette quête de devenir toujours plus gros, d'avoir toujours plus de pouvoir, cette envie d'être comme les autres et cette quête de l'enrichissement personnel a dénaturé, en fait, le projet mutualiste de départ.
Allô, Disbank Populaire, bonjour.
Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle parce que j'ai vu sur votre site internet que la Banque Populaire allait aider ses clients les plus touchés par la tempête Xynthia.
Oui.
Et alors moi, en fait, en 2006, j'ai pris des actions Natixis et j'ai tout perdu, quoi. Sur les conseils de mon conseiller Banque Populaire, j'ai perdu toutes mes économies. Et je voulais savoir si la Banque Populaire envisageait pas de venir en aide aussi à ses clients-là.
Non, malheureusement. Non, malheureusement pas.
Non, pas du tout ?
Non, non.
Parce que c'est assimilable, ça a été la même chose que la tempête Xynthia, hein, Natixis, ça a été un vrai...
Ça a été une tempête, oui, ça je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est pas la même... Enfin, je sais pas comment vous le qualifiez, c'est quand même pas la même nature...
Non, mais disons que, en plus, la responsabilité de la Banque Populaire est plus engagée que dans Xynthia, donc...
Bon, par contre, ce que vous pouvez faire, parce que vous n'êtes pas la première, donc, et vous ne serez pas la dernière, donc vous pouvez quand même envoyer un courrier au service client,
ouais,
en faisant cette demande-là.
Et vous pensez qu'ils vont pouvoir me venir en aide ? Parce que je suis allée trouver le directeur de mon agence, mais il a jamais...
Non, mais je vous dis pas qu'ils vont venir en aide.
Ah.
Je peux pas vous dire ça. Ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez une réponse.
D'accord.
D'accord.
Et, mais je suis pas la première alors à vous appeler.
Ah non, mais pas en faisant la comparaison, si vous voulez. Là, on a évidemment qu'il y a des clients, pas là, pas à l'instant T, ce que je veux dire, pas depuis la tempête Xynthia, mais il y a des clients, effectivement, qui ont demandé à ce que la Banque Populaire intervienne au sujet des pertes qu'il y a eu au sujet de Natixis. Mais bon, c'est pas lié avec
oui,
la tempête, quoi.
D'accord, mais ça a marché pour eux, sans faire le lien avec la tempête, ils ont pu avoir de l'aide
Non.
Non.
Mais au moins, on fera une réponse par écrit.
Ah.
Hmm?
Mais oui, d'accord. Peut-être que si on est beaucoup...
Eh bien, peut-être.
Bon, bah, merci.
Je vous en prie.
Bon au revoir.
Au revoir.
Derrière chaque projet, il y a des hommes et des femmes qui bâtissent.
Moi, j'avais délégué mon pouvoir de surveillance au responsable de la Caisse d'épargne. De la Caisse d'épargne de France.
Qui planifie.
Là, on est dans la manipulation financière, hein, et on est dans les madofferies.
Il y a des hommes et des femmes.
Il fallait que chacun de nos clients
qui planifie
ressorte avec des actions Natixis.
On a un système qui s'appelle le benchmark, qui passe par la comparaison de chaque agence avec toutes les autres et de chaque salarié avec tous les autres. C'est un petit peu comme chez McDo, il y a le classement du meilleur vendeur. Nous, on en est là.
Et derrière toutes ces énergies, il y a des hommes et des femmes qui trouvent des solutions financières pour que ces projets puissent exister. Ce sont les experts de Natixis. Natixis, la banque d'investissement et de projets.
Il faut dire qu'il y a des personnes... là-haut, ça doit les rendre malades, quoi, de voir autant de livrets A qui bougent pas,
Eric,
qui puissent pas mettre la main dessus et faire des profits énormes avec, ça les rend fous, quoi.
Conseiller commercial à la Caisse d'épargne.
Il faut savoir que chaque personne qui détient des actions Natixis a en fait des avoirs dans la pornographie. On a sorti un tract via un article du Canard Enchaîné, Natixis, banque du X. Les nombreux papis et mamies à qui on a conseillé d'enlever des sous du livret A pour prendre des actions Natixis ne savent pas que dans Natixis, vous avez des avoirs dans la pornographie.
Bientôt, vous pourrez en devenir actionnaire.
Tu aimes t'exhiber, tu aimes donner du plaisir, tu aimes diriger ou être dirigé, deviens modèle et gagne beaucoup d'argent, jusqu'à 75 euros par heure pour chaque client connecté dans ton salon privé. Et oui, il ne s'agit pas d'une annonce de recrutement pour sordide pipe chaude Pigalle, mais de la page d'accueil d'un des sites internet que gère, sans trop s'en vanter, Rentabiliweb. Et Rentabiliweb, eh bien, c'est une boîte créée, voilà, 6 ans et spécialisée dans le développement des sites payants qui se veut tout ce qu'il y a de plus respectable. Alors, il y a dans cette boîte, il y a le bottin mondain de la finance, HSBC, Natixis, AXA, etc. et qui compte depuis 2007 3 huiles du patronat français parmi ses actionnaires. Bernard Arnault à hauteur de 6,3%. Le pape de la télé-réalité Stéphane Courbit à 10,3%. Et l'ancien maître du monde Jean-Marie Messier, 3%. Rien que ça, c'est un trio rejoint l'an passé par un administrateur de choc, l'ex-ministre des Finances, Alain Madelin. Ses nouveaux amis n'ont pas froid aux yeux. Ils ont aussi du nez. Rentabiliweb est, comme son nom l'indique, une affaire fort rentable. Voilà, c'est ce que le Canard Enchaîné sortait le 18 novembre dernier, et que les syndicalistes de Sud, évidemment, se sont fait un devoir de faire savoir autant qu'ils aient pu être écoutés, parce qu'ils avaient, les mêmes syndicalistes des caisses d'épargne, mis en garde la banque contre les risques dès 2006, parce qu'on attribue cette chute de la valeur des actions Natixis au subprime. Alors, c'est pas difficile, on dit « Ah ben, c'est la crise, c'est les subprimes », voilà, on a tout expliqué. Eh bien non, dès 2006, dès la mise en place de cette grande opération, les syndicats mettaient en garde et leurs collègues et la direction et les clients. Eh bien non, les clients se sont transformés en pigeons. On retrouve Patrick Saurin, membre de l'exécutif national de Sud Caisse d'Épargne.
Natixis, alors, chaque grand réseau bancaire, ce qu'on appelle une banque de gros, une banque de financement et d'investissement qui a pour vocation de financer des gros projets et de gérer des grands comptes. Or, Natixis a été la première banque impactée au niveau de la crise financière. Si on prend les résultats, par exemple, de 2009, on s'aperçoit que Natixis après avoir dégagé un nombre incalculable de pertes les années précédentes, affiche un résultat négatif de 1,6 milliard, alors que, par exemple, la banque de gros de BNP Paribas, elle affiche un résultat positif de 12 à 14 milliards d'euros. Donc, on mesure les problèmes de gestion et de compétences au niveau de Natixis et de ses équipes dirigeantes. L'entreprise a été obligée de créer une structure pour isoler les actifs toxiques, où on a 35 milliards d'actifs toxiques qui sont gérés, qui sont, je dirais, écoulés au fur et à mesure des possibilités. Donc, les conséquences pour les caisses d'épargne. Actuellement, donc, l'entreprise a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui s'appelle plan de licenciement, où il est prévu qu'on puisse faire partir jusqu'à 877 salariés sur une entreprise qui en compte 5200. Ça veut dire moins de services pour les clients, moins de personnes pour leur répondre, et pour le client qui va rentrer dans l'agence, l'assurance qui va se faire sauter dessus par le conseiller. On a vu déjà la communication des patrons pour Natixis, et cette logique-là, elle va être poursuivie. Le discours en agence, c'est dire tu veux gagner plus, mais tu vends plus. Mais vendre plus, ça veut dire vendre n'importe comment. Dans une situation actuelle où on a des gens, je dirais, qui se retrouvent avec des suppressions d'emplois, qui se retrouvent chômeurs, qui se retrouvent avec diminution de revenus, avec des retraités, ben ça, ces gens-là, ben ils ont été victimes à l'occasion de la vente de Natixis, ben de cette pression commerciale. Et la pression commerciale, elle s'exerce de façon très forte sur les salariés, puisque c'est un élément essentiel de l'évaluation. On a un système qui s'appelle le benchmark, qui passe par la comparaison de chaque agence avec toutes les autres et de chaque salarié avec tous les autres. C'est un petit peu comme chez McDo, il y a le classement du meilleur vendeur. Nous, on en est là. On va vers le salaire à la tâche, en quelque sorte. C'est comme avant le salaire à la pièce. Vous vendez tant, ben vous avez tant. Voilà la logique que nous proposent les patrons.
À la Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité, ne quittez pas.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle parce que en 2006, mon conseiller caisse d'épargne m'avait fortement conseillé d'investir mes économies dans des actions Natixis.
Excusez-moi, vous devez pas être bon service. Je pense que vous voulez vous plaindre. Est-ce que je peux vous comprendre? Mais là, vous êtes dans un service technique, donc je vais pas pouvoir vous aider.
D'accord, parce que moi, en fait, enfin, c'est me plaindre, je l'ai déjà fait au directeur d'agence et tout ça, ça n'a rien donné. Mais en fait, ce que je me disais, c'est que comme François Pérol est à la fois président de la Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité et du groupe BPCE, qui détient Natixis, peut-être qu'en fait, il pourrait envisager de lever des fonds, en fait, pour aider les gens comme moi qui ont tout perdu, quoi.
Ah non, mais attendez, je vous entends et je vais pas vous... Je vais pas vous donner tort. Je suis désolé, j'entends bien. Hein, il y a 2 ans, j'étais au service client et donc je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui, comme vous, se plaignent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je suis un salarié parmi les 100 000. Voilà, donc...
Mais alors, à la Fondation Caisse d'Épargne, qui est-ce qui pourrait...
Mais vous n'êtes pas à la Fondation Caisse d'Épargne. Vous êtes dans un centre technique informatique. Parce qu'en plus, c'est quoi votre demande?
Parce que je me dis que la Fondation Caisse d'Épargne pour la Solidarité, oui. Ils pourraient, comme ils ont le même président que BPCE, François Pérol, et que Natixis fait partie de BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, ils pourraient peut-être essayer de soulever des fonds ou de faire quelque chose pour les petits épargnants, puisque tout le monde s'est plaint auprès des directions et personne n'a jamais voulu nous entendre. Et donc, une fondation pour la solidarité, peut-être qu'ils réussiraient à lever des fonds.
Écoutez, moi, je vais vous dire, je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, je suis grand-père. J'ai un vieux passé dans ce réseau. J'espère pour vous, vous êtes très jeune parce que vous avez beaucoup d'illusions. On est dans un monde de capitalistes et ces gens-là, ils n'ont pas plus à vous écouter, sauf si vous avez un rapport de force. Vous avez 2 solutions. Soit le médiateur, il vous répond et vous lui renvoyez les documents. Soit vous adhérez à une des multiples associations qui font de cette défense-là leur cheval de bataille. Je vous entends, je comprends votre mal-être. Moi, j'ai eu la chance de ne pas investir dans Natixis. J'aurais pu être salarié. Mais on ne savait pas. Hein. Vous ne dites pas oui comme si je savais. Je peux vous dire que pas un d'entre nous le savait. Attendez, je vais juste vous donner, si je retrouve un autre numéro de la Fondation. Et puis après, vous essaierez de vendre votre idée qui est parfaitement légitime, mais qui, à mon avis, sera dure. Mais en tout cas, c'est pas moi qui pourrais vous aider plus. Que vous avez écrit directement à François Pérol en écrivant au 50 avenue Pierre Mendès France à Paris dans le 13e?
Non, parce que je me dis qu'ils vont jamais me répondre.
Vous avez tort.
C'est vrai?
Vous aurez de toute façon une réponse, ça je vous le garantis. Alors là, ne serait-ce qu'un accusé réception, déjà.
Ouais, bon.
Maintenant, si vous voulez, je peux même vous donner un autre truc. Si vous connaissez un député, vous lui faites faire un petit mot avec. Et là, c'est directement sur le bureau de François Pérol. Vous êtes sur Paris?
Oui.
Eh ben, vous allez à votre mairie, vous avez des permanences en permanence. Ça, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que quand ça arrive avec un petit mot d'accompagnement, c'est directement sur le bureau du patron. C'est la seule chose que je peux vous apporter de ferme et sûre. Voilà.
C'est...
Bon courage.
C'est... Au revoir.
Merci. Au revoir.
Fabrice Raymond, je suis directeur général de la société Desminor qui fait du conseil aux actionnaires minoritaires. À l'origine, il y a plus de 4000 actionnaires de Natixis qui nous ont contactés. Et avec l'avocat avec lequel nous travaillons, nous avons été convaincus que toutes ces personnes avaient été trompées à la fois au moment de l'acquisition de ces titres, mais tout au long du process et de la vie de Natixis depuis décembre 2006, on leur avait pas raconté la réalité des risques qu'ils prenaient et surtout de l'évolution catastrophique que prenait Natixis. Que ce soit en 2007 ou 2008, les dirigeants n'ont eu de cesse que de rassurer, comme par hasard, Natixis n'était pas touché par les problèmes, ces fameux subprimes. C'était assez surprenant de raconter des choses pareilles. Et un autre élément qui me choque, c'est quand ils veulent être défendus, ils ont en face d'eux, que ce soit dans les réseaux des caisses d'épargne ou des banques populaires, des discours incroyables pour justifier qu'on ne leur donne pas des justificatifs. Parce que quand vous allez dans une action en justice, vous devez apporter un certain nombre de justificatifs. Et on leur dit en face que la société qui s'occupe de l'archivage a fait faillite. Moi-même, j'ai écrit à M. Pérol il y a quelques mois pour lui signaler ce dysfonctionnement.
Monsieur Pérol, donc quel est son rôle au sein du groupe BPCE ?
Monsieur Pérol a tous les pouvoirs. S'il a envie de résoudre cette situation de ses actionnaires individuels et finalement de ses clients, il n'a qu'à appuyer sur un bouton et trouver une solution. Il suffit qu'il le décide. Mais je pense que tant qu'il n'y aura pas une conscience au niveau des politiques... Et d'ailleurs, je suis sidéré du silence de tous les politiques, de tous ces élus du peuple qui, finalement, écrasent ce problème. Ça concerne pourtant des millions de Français qui ont investi là-dedans et personne n'en parle. On n'a qu'une envie, c'est que tout s'écrase.
Alors, maintenant, comment s'en sortir de tout ça ? Comment avoir les conseils, la conclusion et les perspectives d'avenir? Nous avons recours au professeur Lordon, Frédéric Lordon, chercheur au CNRS et économiste hérétique.
Cette histoire de petit porteur floué, c'est un grand classique. D'abord, le petit porteur, c'est une figure historique de la finance. Et elle en a accompagné tout le développement. Et le petit porteur floué est un personnage récurrent, hein, qui surgit de nouveau sur la scène de l'histoire, à la même fréquence que les crises financières se reproduisent, c'est-à-dire par les temps qui courent de plus en plus souvent. Bon. Alors, en même temps, il faut bien voir que c'est la figure du petit porteur floué ne dessine pas une population homogène. Il y en a de différentes sortes et il va falloir faire des différences pour pas être trop injuste. Par exemple, prenez les ruinés de Madoff ou de Stanford, qui sont les deux méga arnaques de la dernière crise financière. Les ruinés de Madoff, au risque de paraître avoir le cœur sec comme une pierre, moi, je dois vous dire que, franchement, il ne me tire pas un sanglot. Mais vraiment plus rien du tout. Mais même pas une larmichette. Ces gens-là me semblent être les types les plus représentatifs de ce qu'on pourrait appeler la culture du capitalisme financiarisé. Parce que c'est bien ça qu'il faut voir. Et en fait, c'est là-dessus que je voudrais insister. C'est que le capitalisme financiarisé est une structure économique, avec ses stratifications sociales, etc. Mais il a, pour parler facilement, il a aussi sa culture propre, hein, avec ses images, ses fantasmes, ses chaînes de radio, de télé, donc son appareil culturel propre. Alors, il faut bien dire que les franges de la population qui ont le plus trempé dans cette culture-là et qui sont le plus impliqués dans l'investissement financier, notamment dans l'investissement boursier, sont des gens qui sont totalement imprégnés par l'esprit de cupidité du temps, quoi. Enfin, je veux dire, donc ces gens-là qui viennent chialer parce qu'ils ont tout perdu, faisaient bravo, bravo et applaudissaient des deux mains lorsque Madoff venait leur promettre des rendements garantis à l'année de 10 à 15%. Et c'est ça l'esprit de cupidité, c'est l'idée que on peut s'enrichir, comme disait tonton Mitterrand, en dormant, et dans des proportions qui permettront alors de prendre la voie rapide et de doubler la rémunération du travail, alors, mais dans des proportions absolument gigantesques. Donc il y a un ethos qui est complètement imprégné de cette cupidité, mais mélangé à des formes de crédulité absolument naïves, moi, qui me font penser à celles de ces lecteurs un peu âgés du Télé 7 jours d'il y a 20 ou 30 ans. Vous savez, qui remplissaient scrupuleusement leur bon de commande pour acheter la Pierre du Nord avec le portrait de Daniel Gilbert en incrustation, dans l'espoir que ça allait les guérir de leurs ongles incarnés ou de leurs hémorroïdes. Et c'était toujours la même cruelle expérience de la déception recommencée. Ça ne marche pas, je veux dire. Eh ben, 10 à 15% l'an garanti en bourse, ça ne marche pas non plus. Pareil. Bon. Donc, moi, je me demande, à la fin des fins, si il ne faut pas l'expérience absolument douloureuse, hein, j'en conviens, mais de la ruine pour extirper cette idée de la cupidité qui est le pilier central de la culture du capitalisme financiarisé. Et très honnêtement, s'il le faut, j'aurais presque tendance à dire ainsi soit-il. Bon, alors, je parle des ruinés de Madoff, mais je parle des États-Unis, mais on a les mêmes à la maison, hein, et qui reviennent là aussi avec la même régularité métronomique. J'ai le souvenir, lors de l'éclatement de la bulle Internet, donc c'était en 2000-2002, d'avoir entendu à la radio chialer un petit actionnaire qui avait certainement dû se croire très malin pendant la période de la bulle, puisque là, il faisait ses investissements depuis son ordinateur à la maison par Internet, il était au comble de la modernité. Sauf que le gros malin, il avait investi toute son épargne en vue de la retraite sur trois titres essentiellement, qui étaient France Télécom, Alcatel et Vivendi, dont chacun a perdu au cours de la crise Internet à peu près 90% de sa valeur. Et fuite faisait la retraite du monsieur, et il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Bon, c'est absolument tragique d'un côté, et en même temps, c'est tellement vertigineux de bêtises, quoi, et d'aveuglement cupide, qu'on se dit, mais s'il faut en passer par là, bon. Alors, il y a ces ruinés-là pour lesquels, moi, je me déclare à sec de compassion. Et puis, alors, il y a des ruinés d'une autre sorte qui, eux, sont plus à plaindre qu'autre chose, parce qu'ils sont pas du tout... les pauvres sont pas du tout responsables de leur sort. Hein. Je vais donner deux exemples. Le premier, je repars aux États-Unis. Hein. Les salariés de Enron, par exemple, lorsque la boîte a fait faillite, du fait de sa gestion ultra scabreuse, de ses manipulations comptables, etc. Les salariés d'Enron ont vu partir en fumée toute leur retraite. Mais alors, eux, ils sont bien à plaindre parce que ils n'avaient pas le choix de placer leur épargne autrement que dans les actions de la boîte, et que la boîte a explosé en plein vol du fait des manipulations de ses dirigeants auxquelles les salariés n'avaient strictement aucune part. Donc là, les pauvres étaient pieds poings liés et ils ont subi la ruine comme un destin dans lequel ils n'avaient aucune responsabilité. De la même manière, pour retraverser l'Atlantique une nouvelle fois, il y a plein de petits épargnants qui se font purement et simplement filouter par des conseillers financiers peu scrupuleux, qui ont pour tâche de fourguer de l'action comme un représentant ses balais brosses, et avec le moins de conseils financiers et de renseignements possibles, parce que moins on en dit, plus ça partira vite. Bon, alors là, on est dans des cas. Si on revient vers l'hypothèse de la crédulité, mais la crédulité de bonne foi est abusée de manière flagrante. Alors ceux-là, oui, ils ont vraiment toutes les raisons de se plaindre. Et alors, parmi les leçons qu'il y a à tirer de ce triste épisode, c'est-à-dire il y a à la fois la maxime de se tenir, la maxime à l'adresse des épargnants de se tenir aussi éloigné que possible des actions, mais il y en a également une autre qui a une portée plus prospective et qui a trait au cas de la Poste, qui est en train de se transformer en société anonyme postale, dont la banque postale sera le centre, hein, ça on le voit très bien venir, et qui sera la caisse d'épargne de dans 10 ans. Je veux dire, ça c'est écrit. Hein. Et le pire étant que ce sont les équipes dirigeantes à chaque fois, hein, de toutes ces entreprises, qui poussent à la roue et rejoignent les projets politiques de déréglementation et de normalisation capitaliste, tout simplement parce que elles ont envie elle aussi de prendre part au grand jeu de la mondialisation, et alors spécialement la Poste, qui est un collecteur d'épargne parmi les plus grands de France, et qui est donc assise sur un tas d'or, et qui se dit, mais alors avec un coffre-fort pareil, j'ai les moyens d'être le roi du pétrole sur les marchés de capitaux. Et ceci finira mal.
Et voilà.
voilà, les pigeons ronds de l'avenir. Merci à toutes et tous. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Philippe Frémaux du mensuel Alternative Économique. Frédéric Lordon, merci. Ainsi qu'aux camarades du syndicat Sud de la Caisse d'Épargne. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. La même chose sur là-bas.org, là-bas.org. De Farguerid et Céline Bonhomme étaient à la technique aujourd'hui. Koyen Guyen et Raphaël Moutet ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut le dire. Agnès Lebot nous assiste et Céline Rouzet attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, c'est-à-dire le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson. Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Ouais, bah, regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique qui les commande pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Après les films, l'attraction. Découvrez Arthur, l'aventure 4D au Futuroscope. Une réalisation du département de la Vienne. Futuroscope, votre prochaine destination séjour. Futuroscope. Retrouvez les tarifs et les promotions sur futuroscope.com.
Préfonds retraite.
Allô, le 30-25? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis dans la fonction publique et j'ai entendu dire que pour moins de 20 euros par mois, je pouvais me constituer une rente à vie pour ma retraite. C'est vrai?
Préfonds vous répond au 30-25, appel gratuit ou sur préfonds-retraite.fr. Préfonds retraite. Complémentaire et nécessaire.
Monsieur Montel, voulez-vous prendre pour logement le studio de Madame Jeannin, ici présente?
Oui.
Madame Jeannin, propriétaire d'un studio, acceptez-vous de prendre pour locataire Monsieur Montel, ici présent?
Ah ça oui.
Félicitations, je vous déclare uni par les liens de la nouvelle garantie des risques locatifs.
Un contrat d'assurance qui garantit le propriétaire contre les risques d'impayés de loyer et les dégradations. Un accès au logement plus facile pour les locataires. Tout le monde dit oui à la nouvelle garantie des risques locatifs. Renseignez-vous sur grl.fr.
C'était un message du ministère du Développement Durable et de Action Logement.
Dites-moi François, vos photocopies, vous les faites bien recto verso? Vous savez, économiser du papier, préserver l'environnement.
Oui, je sais. Ça n'a que les bons côtés.
Passer au durable, ça marche. Du 1er au 7 avril, c'est la semaine du développement durable. Retrouvez les manifestations sur semaine-du-développement-durable.gouv.fr. Ceci est un message du ministère du Développement Durable et de l'ADEME. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
Et malgré tout ça, on continue. On se retrouve demain à 15h pour la basse, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
Les centristes veulent peser plus sans pour autant rompre avec l'UMP. Les députés et sénateurs alliés au parti de Nicolas Sarkozy se sont réunis à huis clos ce matin pour tirer les leçons du scrutin régional. Ils veulent avoir plus souvent leur mot à dire, notamment au Parlement, et demandent à être reçus par François Fillon la semaine prochaine. François Sauvadet, le président du groupe centriste à l'Assemblée, veut soumettre au Premier ministre un nouveau pacte majoritaire, un pacte beaucoup plus proche, dit-il, des préoccupations de nos compatriotes. Le débat prévu à l'Assemblée nationale sur les retraites des infirmières a finalement été reporté d'une semaine, mais pas la manifestation d'aujourd'hui. Elles sont plus d'un millier rassemblées à proximité du Palais Bourbon. Elles contestent le projet du gouvernement, un texte qui leur propose de choisir entre une revalorisation de leur salaire de l'ordre de 2000 euros net par an, en échange d'un allongement de la durée du travail à 60 ans contre 55 actuellement, ou alors de maintenir leur droit à la retraite à 55 ans, mais avec une petite revalorisation. Jean-Michel Lemétayer, le patron de la FNSEA, se dit satisfait de l'accord conclu entre producteurs de lait et industriels. Après un bras de fer de 10 jours, ces derniers ont accepté de respecter leurs engagements en matière de prix. Ils augmenteront en moyenne de 9% au second trimestre. En échange, le patronat a obtenu la négociation d'ici fin mai d'un indice sur l'écart des prix avec l'Allemagne, un autre sur le coût de production, un troisième sur la valorisation des produits. De nouvelles discussions donc en perspective. Le procès en appel de l'Erica, l'avocat du groupe pétrolier, maître Soulez-Larivière, se réjouit de la décision de la Cour d'appel de Paris qui évoque une faute d'imprudence et qui ne condamne pas son client au civil. Selon cet arrêt, le groupe pétrolier a bien une responsabilité pénale dans cette affaire, mais pas de responsabilité financière. Les sommes déjà versées, 170 millions d'euros, seront tout de même conservées par les parties civiles au titre du devoir de solidarité, dit l'avocat. Total ne paiera pas, en revanche, les sommes supplémentaires allouées par la justice, notamment au titre du préjudice écologique. Les autres prévenus, l'armateur, l'organisme italien de contrôle RINA et le gestionnaire devront s'en acquitter. Météo France n'a sorti que le drapeau jaune sur les côtes vendéennes, pas d'alerte orange dans l'attente des grandes marées et du coup de vent prévu dans la soirée. Une quinzaine de maisons seulement ont été évacuées par précaution. Il avait été contrôlé à 253 km/h sur l'autoroute. Un automobiliste de 34 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières. Il roulait trop vite, mais il avait bu également et était en état de récidive. Sa voiture, un coupé Fiat équipé d'un moteur trafiqué, a été saisie.
Tous les dimanches, à 20h10, le masque et la plume,
Allez.
Jérôme Garcin.
On va y venir.
C'est un petit peu ça, quoi.
Littérature.
Non.
Comme il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de petits points de suspension.
Cinéma.
Ouais, je trouve que vous avez tort.
Théâtre.
J'ai trouvé.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume,
écrivez vos emails.
Non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence.
16h03, je vous laisse en compagnie de Frédéric Clodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Ce matin, dans Le Fou du Roi, Stéphane Bern et ses invités ont parlé cinéma autour du film Tête de Turc et on a cité la musique de Bruno Coulet, qui est certainement très très bonne, comme d'habitude, et très talentueuse. Et moi, je vais faire l'inverse, je vais vous parler de la musique de Béatrice Thirié pour arriver au film Les Invités de mon père. C'est quoi l'histoire? C'est un médecin retraité, homme d'action, réputé pour son implication dans de grandes causes humanitaires, et son engagement va le conduire jusqu'au mariage blanc avec une jeune femme moldave, Tatiana, pour lui éviter l'expulsion. Seulement, évidemment, vous doutez, ce médecin, âgé de 80 ans, va tomber amoureux de son hôtesse, on peut dire, de celle qu'il a recueillie. Du point de vue légal, tout va bien, mais enfin, il va succomber au charme de sa flamboyante épouse, ce qui va mettre un peu de désordre, évidemment, dans la famille, parce qu'il y a des enfants, et les enfants trouvent ça vraiment un peu étrange. Donc, un film avec de très beaux acteurs, avec Karine Viard, Fabrice Luchini, Michel Aumont, Valérie Benguigui, Véronica Novak, ce film d'Anne Leny, je conseille d'aller le voir. Et puis, d'écouter, de prêter attention à la musique de Béatrice Thirié, véritable compositeur ou compositrice, elle accepte les deux. Je vous propose d'entendre, tiré de la bande originale des Invités de mon père, le générique.
Thank you.
Générique des invités de Mon Père, film d'Anne Leny, qui sera sur les écrans dès demain, bien sûr, le mercredi. Et c'est Béatrice Thirier qui a signé la partition. On a entendu là le Star Pop Orchestra dirigé par Mathias Charton. Il y a un autre orchestre d'ailleurs. Le disque vient de paraître parallèlement, donc la bande originale. Et il y a un orchestre qui s'appelle London Metropolitan Orchestra dirigé par Andy Brown. Et ça a été enregistré à Abbey Road, les fameux studios, entre autres des Beatles, et surtout les studios appartenant à EMI et qui ont failli être vendus. Heureusement que le gouvernement britannique a mis la main dessus pour les garder en tant que monument historique. Une autre page de ce beau film, ce sera La beauté de la mer. Mais avant, je cite la réalisatrice Anne Leny qui dit, voilà, dans notre travail commun avec Béatrice Thirier, je suis toujours émerveillé par sa disponibilité et son complet dévouement au projet. Revoir mon film avec sa partition me donne la sensation d'une osmose totale. J'en arrive à me faire croire que sa composition appartient pleinement au film. Mais si je l'écoute indépendamment, cette musique, d'autres images apparaissent libérées de mes propres images. Je me rends compte alors que la musique de Béatrice n'a en rien besoin de mon film pour exister en toute sa richesse et sa complexité. La beauté de la mer.